Elem Basket Évreux Heure, qui voulait partager des informations auprès de la presse locale, était présent. Philippe Guinchard pour l'info La Dépêche à la question, Alexandre Sanson pour Paris Normandie à la question, et moi-même face à Marc Namura, qui était le coach de la LM Basket. Vous allez en savoir un petit peu plus dans le reportage, ainsi que en face de la presse, Jean-Pascal Ruiz, le président actuel du club de basket, accompagné de Karl Ona Embo et de Christelle Onganda. Vous allez découvrir la nature des échanges, seront abordés le nouvel organigramme du club et de son staff, mais aussi les mouvements à venir, ceux déjà opérés, les raisons de certains départs, les discussions qui ont pu être mises en place ou tenues pour essayer de conserver des joueurs, même si elles n'ont pas abouti. Bref, vous allez découvrir plein de petits aspects liés à la fin de saison de la LM Basket sur la saison 2025-2026, mais surtout les nouveaux contours de la saison à venir 2026-2027. Le tout en présence de Simon, qui a fait une captation de qualité. Voilà, bonne écoute, conférence de presse de la LM Basket, ce lundi 15 juin de l'an 2026.
Même à l'arrache, mais au moins c'était
largement.
Ouais.
Bon, je laisse Marc répondre.
Oui, très sportif. Effectivement, je suis 18e sur 20. Il y a quand même une stat à retenir, donc 11 victoires, 27 défaites. On a utilisé 9 contrats pro du 1er août jusqu'au 15 janvier. Et ensuite, on a eu la chance, grâce, et on les remercie, à Paris Basket, d'avoir eu le prêt d'Iliane Mongala, qui nous a permis d'avoir un 10e contrat pro. Donc voilà, on a pu puiser sur ce vivier-là de ces 10 joueurs. Quand les autres équipes qui finissent en dessous de nous, juste au-dessus de nous, ont utilisé entre 14 et 16. 16 étant le quota maximum. Donc voilà un petit peu sur cette saison. On gagne 2 derbies sur les 4. L'année prochaine, on en aura 2 de plus avec Le Havre qui arrive en Elite 2. On a aussi été en capacité de battre Nantes et Poitiers, qui sont demi-finalistes, avec Poitiers finaliste de ce championnat-là, et qui est en bonne posture pour remporter le championnat également, enfin pour remporter les playoffs, pardon. Voilà un petit peu les stats. On a utilisé trois joueurs étrangers, dont 2 francophones, donc un joueur canadien, un joueur luxembourgeois, Ben qui parlait français, et un joueur né en France mais avec un statut de joueur étranger, Ivan Ouedraogo. On avait jusqu'au 15 janvier la deuxième équipe la plus jeune du championnat, derrière Vichy. On est passé devant Vichy avec l'arrivée d'Eliane, puisque 18 ans, on est en 2007. Voilà un petit peu par rapport au bilan. Une douzaine de défaites de moins de 10 points également. Donc voilà. Un peu de frustration, parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. On a quelques moments bascule dans la saison, et notamment le match qu'on remporte largement à Aix, qui derrière nous fait beaucoup de mal, puisqu'on n'arrive plus trop à gagner. 3 jours après, on se souvient d'avoir fait un match laborieux contre l'Aza, où on fait 30 sur 53 au lancer franc. On finit d'ailleurs dernière équipe sur le pourcentage au lancer. Voilà un petit peu le bilan. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas.
Moi, je vais juste revenir sur le groupe de la saison passée, sportif. La saison a été compliquée pour nous, très compliquée, bien évidemment, sportivement, puisqu'on a eu du mal à se maintenir. On aurait pu le faire plus tôt. Mais quelque chose qu'il faut retenir sur la saison passée, c'est un groupe qui n'a jamais explosé. Contrairement à beaucoup de clubs en France, où dès que les défaites se suivent, les groupes ont tendance à exploser. Ça n'a pas été notre cas. On a trouvé un groupe travailleur toute la saison. Je l'ai assez répété devant nos partenaires, devant nos actionnaires, toute la saison dernière. C'est un vrai groupe qui a travaillé, avec bien évidemment des petits accrochages, ce qui fait du bien dans un groupe. C'est toujours bénéfique de dire les choses. mais un groupe qui n'a jamais explosé, qui a toujours travaillé, beaucoup travaillé. Donc, et au niveau du recrutement et au niveau de la saison, je dirais qu'elle est positive à ce niveau-là. Pour moi, c'est très important. Je pense que pour il y a le sportif, certes, mais il y a toute l'ambiance et le vivre ensemble qui est important pour moi.
Humainement, c'est un groupe qui s'est malgré tout bien entendu.
C'est un groupe qui a fait pas mal de choses ensemble sans qu'on soit mêlé à leur soirée ou à leur le mot va m'échapper, à leur rencontre. Il aurait même arrivé de nous inviter, nous, le groupe sportif nous a invités à partager avec eux. Donc voilà, je pense que c'était humainement un très beau groupe en tout cas. Voilà.
Vous avez des regrets de ne pas conserver plus de joueurs justement de ce groupe-là?
C'est la parfaite transition.
On a beaucoup de regrets de ne pas pouvoir conserver quelques-uns de ces joueurs, ouais. Mais comme vous le savez, je ne suis pas un pro du basket. Le marché JFL est très compliqué. Ils partent sous d'autres cieux, certains pour les finances, d'autres pour une carrière sportive différente, bien évidemment. On sait qu'Evreux est un tremplin. À partir de là, voilà. Nous sommes un tremplin pour beaucoup de joueurs. Donc à partir de là, on sait ce qu'on fait. Et après, à eux de.
Mais dans ce qu'on s'était dit aussi, vous avez des buy-outs qui sont très 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 peu élevés. En fait, vous perdez des joueurs que vous signez sur 2 ans pour essayer de construire une équipe pour l'année suivante, enfin, d'avoir une base. Et en fait, vous les perdez quand même parce que les clubs rachètent facilement les contrats qui sont en cours. Enfin, c'est pas une façon de dans laquelle il faudrait évoluer un peu. Non?
Alors, je vais être clair avec vous, encore une fois, comme je sais le faire. Pour les amener à nous, bien évidemment, il faut qu'on leur propose des contrats souvent de 2 ans, avec un buy-out faible, pour leur permettre de rebondir. C'est la seule solution. C'est la seule solution qu'on ait aujourd'hui, en rapport avec nos finances, tout simplement. Il y a un côté économique à ça. C'est la seule solution qu'on ait pour pouvoir négocier leurs arrivées. Ils savent à partir de là qu'ils ont une porte de sortie assez facile avec les buy-out très faibles, effectivement, mais on n'a pas le choix. Donc, pour l'instant, on n'a pas le choix.
Et le choix pourrait peut-être être différent, c'est-à-dire de les confirmer peut-être plus tôt dans la saison que d'attendre la fin de saison ou pas, au moment où ça commence à s'agiter. Il y avait des joueurs, par exemple, je pense à un joueur comme Dorian qui était intéressant, qui a fait une belle saison, qui est du club. Puis rentrer en contact plutôt avec lui pour éviter justement qu'il parte.
Bon, on a fait une proposition très tôt à Dorian. C'est le premier à qui on a fait une proposition bien avant la fin du championnat.
Ouais.
Elle a été rejetée à 2 reprises par l'agent qui avait déjà des plans en tête. Il faut aussi avoir aussi tous les tenants, c'est-à-dire que Dorian, quand il signe chez nous 3 ans sur son premier contrat pro, il change d'agent. En changeant d'agent, le contrat de 3 ans se met en place avec les sommes, et je te rejoins, il y a des buy-out qui sont assez faibles. Mais c'était une volonté de l'agent et du joueur de ne pas être, effectivement, comme l'a dit Jean-Pascal, pas être bloqué. Et Dorian, au bout d'1 an, rechange d'agent. Donc sur sa deuxième année de contrat pro, il repasse avec son ancien agent qui, lui, n'a pas vraiment d'intérêt économique à le laisser ici, puisque la commission, elle est touchée par l'agent qui a fait le contrat. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a rejeté la proposition en allant avec Smorien, qui, au niveau de l'argent, n'est pas très loin de ce qu'on avait proposé.
Ah, il n'y a pas une énorme différence entre.
Il n'y a pas une énorme différence. Il y a quelques milliers d'euros, mais c'est pas. T'as pas 10 000 euros d'écart. Quoi.
Okay. Mais c'est justement, c'est encore pire, parce qu'il n'y a ni l'argent, ni l'envergure d'un club qui est. Enfin, c'est un club.
Oui, mais après, je pense que, comme je t'ai dit, l'agent n'avait pas vocation à vouloir le laisser ici, et puis je pense qu'aussi Dorian a envie de voir autre chose. Il a commencé ici en école de basket, fait plus de presque 20 ans qu'il était licencié ici, je pense qu'il avait aussi envie de. D'aller voir ailleurs.
Donc à l'heure actuelle, on a deux joueurs sous contrat, enfin 2 joueurs de l'ancien sous contrat, plus vous avez officialisé le petit tour en jeu?
Pas encore.
Pas encore.
pas encore, mais il est en train de finaliser avec l'agent. Il reste quelques petits détails. On attendait un point plutôt financier. Pour que vous ayez une information totale, on a aussi fait deux offres à Anthony Da Silva qui ont été rejetées. On aurait voulu le garder. Malheureusement, il n'a pas voulu prolonger. Bon, après, on est OK avec ça. Et je pense que on a rempli nos deux années de contrat avec lui sur les engagements sportifs. Et il a rempli aussi largement sa part du contrat. Mais lui et Dorian étaient les deux qu'on voulait prolonger en priorité. Ben Kovac était aussi une priorité. On avait traité très tôt avec l'agent. Moi, je l'avais eu très tôt au mois de décembre. Mais Ben ne voulait pas prolonger puisqu'il aspirait à un plus gros projet sportif, voire même il voulait essayer de tenter le marché de la première division en France. Donc voilà, on n'a pas pu poursuivre. Tous les autres sont en fin de contrat, notamment Alexis Tang, Yvan. Maxime Carène, ça s'est fait aussi très tôt avec Champagne. On a aussi fait une proposition, on n'a pas pu s'aligner sur Champagne, on lui a fait une promesse d'avoir un fort salaire avec un fort rôle, mais finalement il a préféré décliner et aller à Champagne. Donc il reste sous contrat Maxime Gallin et Biarry Massila.
Voilà. Et ça ne bougera pas.
Ils sont sous contrat en tout cas.
Okay.
Jusqu'à preuve du contraire, non, ça ne bouge pas.
Est-ce que la volonté de garder le petit Yann
On est en discussion. Louis a déjà fait des avances à Paris Basket. Aujourd'hui Paris Basket est en course pour le titre de Betclic. On a envie de continuer avec Ilian. Donc maintenant c'est de la négo entre l'agent et Paris Basket.
Pour une possible signature ou une forme de prêt
C'est ça, en fait. Il a encore 2 ans de contrat avec Paris. Est-ce que Paris le garde? Est-ce que Paris le prête? Est-ce que Paris coupe son contrat et Ilian se retrouve libre sur le marché? Tout ça, c'est des questions auxquelles j'ai pas encore vraiment beaucoup de réponses pour l'instant, mais c'est en train de se mettre en place.
Et lui, il a la volonté de rester.
Pour faire une saison pleine en Pro B, justement, pour après partir sur d'autres horizons un peu plus élevés, forcément.
Et vous n'avez pas l'impression d'être en retard au niveau du repoussement?
Absolument pas. Non, absolument pas. La preuve en est.
Oui, parce que regardez, ça a l'air d'avoir beaucoup plus bougé dans l'organisation. À quel moment on en parle?
Là, donc, vous utilisez l'entreprise, vous prenez un assistant coach joueur en même temps. Donc,
ça où? Contrat double. Voilà, tu vas jouer.
Non, je suis pas coach volant. Moi.
Voilà, on est en train de dire que. On dit Mbo?
Oui.
On dit comment?
On a Mbo.
On a Mbo.
Très bien dit.
Ben voilà, dans l'organisation de la saison prochaine, les choses sont maintenant actées, tout actées. Marc Namura ne sera plus le coach élite 2, mais le manager général du club. Christelle sera la coach des espoirs du centre de formation. Dinis, que vous connaissez, sera le coach principal en élite 2 et Karl sera son assistant sur la saison prochaine.
C'est un contrat de combien pour Dinis?
2 ans.
Et Karl, pareil? 2 ans?
Oui.
2 ans.
Tout le monde est aligné, ouais. Christelle, 2 ans. Tout le monde
est Christelle aussi, 2 ans, ouais.
Et
GM, 2 ans aussi.
Ad vitam aeternam.
C'est différent pour cette partie-là.
C'est un rôle que tu as accepté avec plaisir, GM. Ça a été, est-ce que le fait de plus coacher pour l'instant n'a pas été difficile comme décision à prendre?
Non, ça n'a pas été une décision difficile à partir du moment où, avec Jean-Pascal, nous, les choses, elles sont très claires. On échange depuis bien avant sa prise de fonction, on avait déjà commencé à échanger. Je me souviens qu'on avait longuement échangé aussi suite à la victoire à Fos l'an dernier. Donc nous, les choses ont toujours été claires. Je pense qu'on a besoin aussi de continuer à avancer, à se structurer dans le club. C'est important, très important. Donc c'est bien sûr quelque chose que j'accepte avec plaisir. dans cette nouvelle mission pour moi, ouais, bien sûr.
Et du coup, avec Diniz, naturellement, il a accepté cette idée ou elle est venue
Oui, oui, ça s'est fait plutôt naturellement. Il a accepté plutôt avec beaucoup d'envie. Et encore une fois, c'est des choses qu'on avait un petit peu évoquées.
D'accord, tout au long de l'année.
Régulièrement, depuis 2 ans, on fonctionne ensemble. On connaît Karl parce que Karl a fait la préparation avec nous l'an dernier. Pendant 2 mois, il a fait la route tous les jours de Caen à Évreux. Ça a toujours été présent, ça a toujours été quasiment le premier entraînement. Et voilà, il nous avait aidé grandement pour la préparation, participer à quelques matchs amicaux. Et puis moi, Christelle, que je connais aussi, qui a un gros réseau. Et voilà, je pense que Christelle, on le dit pas aussi, mais elle aura aussi un rôle sur les pros en tant que deuxième assistante. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de se staffer, on a besoin d'avoir des ressources fortes, d'avoir du monde pour faire le trait d'union entre les pros et les espoirs. Hein. On a Dorian qui est sorti dernièrement, il y avait eu Kevin Lavieille qui était sorti il y a quelques années. Et l'objectif, c'est aussi voilà, d'avoir du lien entre le centre et les pros. Si on peut choper un jeune avec un contrat pro, où aujourd'hui, nous, on aimerait mettre en avant Aaron Kozani. Financièrement, c'est quand même plus intéressant pour nous. Et puis, ça a aussi une visibilité pour le club de l'ALM, qui a quand même vécu des années fastes dans la formation sur la fin des années 90. Donc, nous, on aimerait aussi retrouver ça. C'est important de remettre le centre de formation sur le devant de la scène.
Aaron, toi, ça reste
aussi. Aaron, c'est normalement, il n'y a pas de sujet, il doit rester chez nous, sauf que bon, je sais que les agents, ils essayent de le faire bouger aussi. On a eu un appel de Strasbourg là, dernièrement. Et aujourd'hui, il est chez nous.
Bah, Bruno et Mimi, vous n'avez pas essayé de le conserver
Non. C'est pas des raisons liées au basket.
C'est extra-sportif.
D'accord. Plus des raisons extra-sportives dont je préférerais pas les évoquer aujourd'hui. Bruno a fait ses années de stagiaire et voilà, ça c'est pas de problème sur le plan du basket, mais d'un point de vue extra-sportif, ça a été assez compliqué à gérer pour nous. Donc, on ne souhaite pas poursuivre.
Du coup, la DNCG, ouais. C'est tout frais, c'est ça?
C'est tout frais de mercredi dernier. Bah, la DNCG a bien compris le changement de gestion financière du club, avec des exigences un peu plus poussées. Donc voilà, nous avons fait beaucoup d'économies dues au travail de tous au sein du club, voilà, du directoire, mais pas que, le staff administratif qui est derrière vous aussi, enfin l'ensemble, voilà, on a tous bossé pour trouver des petites économies qui paraissaient parfois très très minimes, mais tout ça mis bout à bout, la DNCG nous a félicité ouvertement sur la gestion, cette partie de gestion en tout cas. Bon, après, rien n'est gagné, hein. La DNCG, c'est voilà, aujourd'hui on n'a pas encore bouclé la saison, il faudra clôturer au 30 juin, donc voilà, on a encore beaucoup de partenariats à aller chercher, on a des partenaires, voilà, dont voilà, la situation économique fait que c'est compliqué, donc entre les engagements pris et la réalité, il y a parfois des petites nuances financières. Donc rien n'est bouclé, rien n'est fait, mais en tout cas la DNCG a plutôt été a vu un côté favorable à notre gestion financière cette année en tout cas.
Ça voudrait dire que sur l'enveloppe qui était freinée l'an passé, si tout se passe bien d'ici fin juin, elle serait un peu plus conséquente ou ce serait toujours, il y a toujours ce seuil de 500 000, je crois,
pas dans l'immédiat.
Sur la masse.
Pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, on serait capable de partir avec 515 000. Okay. Si nous clôturons correctement 515 000, okay. Avec éventuellement la possibilité, très rapidement, si on leur prouve encore une fois qu'on fait et qu'on sait faire, l'opportunité d'augmenter un peu la masse salariale
en cours,
dès le début de saison, si tout est aligné.
Oui, vous êtes encore limite. Bien sûr.
On le savait, financièrement, en une année, on savait qu'on pourrait pas équilibrer les comptes. Globalement, on sait bien que voilà, la trésorerie, c'est compliqué. Enfin, il faut remettre en situation les problèmes financiers du club. Hein. On a perdu plus de 300 000 euros par an pendant plus de 3 ans. Donc j'ai envie de vous dire, cette saison, puisqu'on se maintient sportivement, si on arrive à équilibrer nos comptes auprès de la DNCG, je pense qu'on aura fait une belle saison. Il faut remettre, faut mettre l'église au milieu du village, hein. C'est une vérité. On sait que la saison prochaine sera compliquée aussi. On le sait, hein, c'est pas financièrement de la même manière. On fera pas plus d'économies. Ça, c'est une certitude. Pour la bonne et simple raison, c'est que cette année, on a amputé le confort du staff sportif. Et que je pense qu'on peut pas. On s'est déplacé dans des conditions parfois
pittoresque.
Pittoresque, c'est pas le mot, mais très singulière. Des déplacements avec des navettes ou ce genre de choses c'est pas l'idée d'un club professionnel avec une structure professionnelle. Maintenant on l'a fait cette année, on savait qu'il fallait le faire, donc on fera quelques économies encore, mais qui serviront uniquement au confort du sportif.
Justement, pour rebondir sur ce que dit Jean-Pascal, c'est important aussi pour nous, comme je l'ai dit en propos liminaire sur l'utilisation de 9 puis 10 joueurs professionnels, d'avoir aussi monté aussi notre budget si on a des ajustements en cours, apporter un joueur qui soit complémentaire pour l'équipe si on a des besoins, couper aussi un mec en cours de route. On aurait pu le faire cette année, on l'a évoqué ensemble il y a quelques semaines, mais c'est aussi important d'avoir ce type de levier pour être le plus performant possible, puisqu'on est dans l'exigence du milieu professionnel. Cette année, on n'a pas pu le faire.
Justement, là, les nouvelles prérogatives de la Ligue, là, sur ces 2 US maintenant, c'est ça? Oui. Avec 3 bosman. Est-ce que pour vous...
Tu fais 4 bosman ou 4 Cotonou, mais sinon tu as le droit à 2 US et après c'est 2 Cotonou ou 2 bosman.
Merci. Est-ce que... D'ailleurs, toi, j'aimerais bien avoir ton avis, et aussi celui de Karl, est-ce que c'est un rétropédalage de la part de la Ligue? Est-ce que c'est une vérité que, comme le marché du GFL, il devenait compliqué, alors qu'ils ont fait ça pour cela, devenait insaisissable financièrement? Ou est-ce que c'est plutôt une bonne chose?
Pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Quand tu vois la complexité du marché depuis 2-3 ans, où tous les clubs, pas que nous, nous c'est assez simple, une fois qu'on a fait le recrutement l'été, le recrutement il est quasiment terminé, sauf si c'est pour trouver un pigiste. Je tiens quand même aussi à souligner, on n'en a pas parlé, le travail de Colin Godin-Thomas, qui a fait un énorme travail depuis 2 ans, et c'est 2 pigistes sur 2 saisons, ce qui est plutôt très 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 bien. Mais le marché est trop difficile, donc s'ouvrir la porte du marché américain, ça donne quand même une bouffée d'air, je trouve, au club d'élite 2. Hein. T'as plus de choix.
Karl, vous avez le même avis, vous, en tant qu'ancien joueur et une nouvelle assistant d'équipe? Est-ce qu'ils avaient fait ça tout de même pour mettre en avant nos jeunes viviers, ouais, et qu'on les mette en avant, qu'on leur donne des places conséquentes?
Dans ces cas-là, c'est un peu une place d'étranger. Okay. Tu passes à 3 ou même à 2 étrangers comme le fait la National Une. Voilà. Et là, tu peux vraiment exposer tes jeunes français. Mais mettre 2 Américains, ça n'empêche pas tous les jeunes de partir en NCAA.
Bien sûr.
Ça n'empêche pas la fuite de nos talents. Ça, c'est encore une réflexion que doit avoir la Ligue et nos dirigeants. C'est des choses qui nous impactent, nous, mais dont on ne peut pas vraiment influer.
Donc c'est quoi l'année prochaine exactement? C'est 4 étrangers en tout
Oui, ça reste 4 étrangers. Sauf qu'il n'y avait toujours qu'un seul US pour toutes les équipes. Tu as le droit à un deuxième. Après, tu composes comme tu veux. Ouais. Tu peux très bien partir avec 0 US et prendre que des bossman. Tu composes comme tu veux. Mais ça donne quand même plus de latitude, je trouve, au club, puisque le marché américain est quand même assez vaste.
Chose super, là, ce que peut être l'organigramme, je sais pas, d'un jeune coach qui va prendre les rênes, qui n'a pas un grand passé peut-être basket, je voudrais pas lui manquer de respect, ça se trouve c'est un incroyable international U11 au Portugal, Linis. Je ne connais pas son CV, mais l'association avec quelqu'un qui connaît la réalité du terrain, du monde pro, joueur presque très frais encore, peut être très sympa. Moi j'ai une question là, il y a l'émergence de toi Marc au poste de manager, c'est quid de Loïc Cavelier, le président? Parce qu'on a des nouvelles.
On a des nouvelles. Des nouvelles, oui, à chaque fois qu'on reçoit une prolongation d'arrêt, on a des nouvelles, oui, effectivement. La situation, elle est simple. La situation de Loïc Cavelier, elle est simple. Aujourd'hui, il est en arrêt maladie. Depuis le 18 août 2025. C'est-à-dire qu'on a fait une saison entière sans directeur général. Ne pensez pas que le fait d'avoir proposé le poste de manager général à Marc soit uniquement basé sur son absence. C'était un souhait de structuration du club qui, pour moi, était primordial. Maintenant, le cas Loïc Cavelier, bah, effectivement, on va faire sans lui. On a fait sans lui une saison et on s'en sort pas trop mal. Donc on fera une deuxième saison et quand il daignera revenir ou quand ses arrêts seront finis, bah, il reviendra.
C'est presque plus que pour toi Jean-Pascal, parce que tu l'as jamais croisé depuis que tu es présent.
Si.
Ah, quand même.
Si. On a échangé deux petits mois et puis voilà. Et puis voilà. Moi, ceci dit, maintenant vous me connaissez, rien ne m'arrête, c'est pas le mot. Mais je vais répéter ce que je dis tout le temps, hein, où les gens travaillent pour ce club et avancent pour ce club, où ils s'effaceront naturellement ou pas naturellement, tout simplement.
Pardon, merci.
Ça s'est fait naturellement, cette proposition d'assistant coach, dans l'après-carrière, parce que c'est quelque chose que je pense que tu voulais. Et ensuite, pourquoi Évreux, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet vraiment,
c'est simple, hein. C'est Denis et Marc qui m'ont rappelé, qui m'ont proposé justement ce poste-là. Puis moi, bon, voilà, comme certains le savent, moi ça fait depuis un certain temps que je me prépare pour ce poste-là. J'ai pris le temps de passer 1000 points, j'ai pris le temps de me préparer. Et ce sont les premiers qui m'ont rappelé, tout simplement, qui m'ont offert ce poste-là. Donc j'ai accepté directement, d'autant plus que j'étais venu la saison dernière pendant la pré-saison. Donc on a très bien passé. Et moi, voilà, je fonctionne beaucoup comme ça au feeling, et au final, je me suis dit, on va tenter l'aventure, allons-y. Quoi.
Ouais. Ouais. Mais en tout cas, tu te vois du coup débuter ici et ensuite devenir coach dans l'idéal, dans un futur plus ou moins proche, c'est un peu ça l'idée.
Oui, c'est l'objectif. Maintenant, je vais prendre le temps. Hein. Pour l'instant, je suis qu'assistant, je suis là pour soutenir Denis, et après, on verra où ça mène. Mais, petit à petit.
Ok. Ouais. T'as passé le diplôme
là ? Oui, j'ai passé le DE, DGEPS, voilà, et puis on va continuer à passer le reste des diplômes pour continuer à évoluer.
Alors, tu joues encore un peu ou
pour le plaisir ? Non, enfin, j'ai fait mes derniers matchs
cette semaine. Pour le plaisir, tout ça, tu t'en profites un peu.
Ah oui, je m'entretiens toujours, toujours. Et puis le fait d'être assistant coach, dans la manière dont on va fonctionner, je vais toujours un peu. C'est un peu sur le terrain où je vais toujours taper la balle, mais non, je ne joue plus en club.
Et Christelle, donc tu vas avoir aussi un rôle sur l'équipe pro, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as fréquenté beaucoup le club d'Orchy, là, tu viens de faire d'Orchy. On a un gros bébé là-bas qu'on aimait beaucoup qui s'appelle Joe Burton, tu connais, qui est quelqu'un qui fait de l'unanimité, qui était deux fois MVP là-bas, je crois, d'ailleurs, avec Orchy.
Deux fois MVP.
Qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine, tu sais?
Alors là, je sais pas, j'ai aucune idée. D'accord.
Et donc t'es déjà, tu auras un rôle donc sur les espoirs, mais aussi un petit rôle. Comment tu t'envisages ce petit rôle justement au sein de l'équipe pro?
Voilà, la plus grande partie de mes missions, ça va être donc sur l'équipe espoir et sur centre de formation. Moi pour l'équipe pro, c'est pouvoir mettre mes compétences au service de l'équipe. Donc, voilà. Ça, il y a un coach, il y a un assistant, et moi c'est pour amener aussi le fait que comme j'ai l'équipe espoir, les passerelles
avec les
passerelles avec les pros, Je suis pas encore bien, comment dire, je dois parler avec le nouvel entraîneur pour bien savoir.
Vous êtes pas rencontré encore avec Dylis?
Si, j'ai déjà rencontré. Mais comment dire, je dois l'avoir demain au téléphone.
D'accord. Un peu, tout ça. Parce que là, Denis, il est
en train de. Il est un peu